mesdames, messieurs. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes à l'antenne. Aujourd'hui, l'Institut économique de Montréal rend public une étude sur la rémunération des cadres dans le secteur privé au Québec. Et on en parle avec le PDG de l'Institut économique de Montréal, Michel Kelly-Gagnon. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous, mon cher?
D'excellente humeur. Et vous?
Eh, très bien, absolument. On est heureux. À Québec, ça va bien, nous autres. Montréal, c'est plus tough, je comprends. Les gars qui mettent tout de suite la merde en commençant. Hein?
C'est ça, exactement. Et là, d'habitude, je réplique à ça que le but là, de je sais pas qui était un bon but.
Ah, le but d'Alain Côté était bon? Enfin, comme ça, tu fais la paix? Parfait. Calumet de paix, c'est réglé. Alors, pourquoi on s'est intéressé à cette question-là de la rémunération des cadres dans le privé?
Ben, parce qu'il y avait beaucoup de
d'imprécisions
qu'on disait là-dessus. Ouais. Un peu, parfois, pas vraiment exact. Et une des choses qu'on aime faire, des fois, c'est de ramener la réalité des choses et de parler un petit peu de certains faits. Donc, c'est un peu la logique derrière ça. Puis, au fond, rappeler un principe de base très simple, qui est que les entreprises privées appartiennent à des propriétaires qui en sont les actionnaires, et que c'est aux actionnaires finalement de décider le salaire des patrons et non pas aux politiciens de commencer à se mêler également de ces affaires-là.
Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que les dirigeants sont bien payés essentiellement?
Oui, évidemment, surtout dans le cas de très grandes entreprises, ils ont des salaires évidemment élevés. Faut voir par contre que même dans ces cas-là, leur rémunération a fluctué en fonction des rendements et de l'état de l'économie. Parce qu'une des affirmations qui avait été faite, c'était de dire, bon, même quand finalement la compagnie va très mal ou elle fait faillite, ils reçoivent de grosses primes. Et c'est vrai qu'il y a eu des cas absolument spectaculaires.
Et dans l'automobile, entre autres. Là.
Qui ont montré ça, donc on peut pas nier que c'est arrivé. Mais de façon générale, la rémunération des dirigeants d'entreprises dont les compagnies allaient bien ont augmenté de 63%, alors que celles des compagnies au rendement qui étaient faibles ont diminué de 38%. On parle de la rémunération variable, ce qu'on appelle les options d'achat d'actions.
Okay.
Donc, bref, en général, la rémunération fluctue en fonction du rendement de l'entreprise. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que, grosso modo, les entreprises sont devenues 6 fois plus grosses, là, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la capitalisation boursière, la valeur en bourse, a augmenté de 6. Et pendant la période où elle a augmenté de 6, les salaires, très exactement, ont eux aussi, je parle des salaires des présidents
des grands patrons,
par 6.
OK, donc ça a suivi.
Exact.
Est-ce que la plupart des grands patrons des grandes entreprises privées comportent dans leur rémunération 3 variables, c'est-à-dire salaire, boni et options d'achat d'actions?
Exact. On peut dire que c'est effectivement le pattern le plus fréquent. Et dans le cas des États-Unis, qu'on avait aussi observé, parce que souvent les règles qui sont mises là-bas en matière de droit des compagnies finissent par être importées au Canada, on se rend compte que certaines des règles que les gouvernements avaient mis en place pour finalement, en guillemets, restreindre l'augmentation des salaires, ont eu en fait exactement l'inverse, comme c'est souvent le cas d'ailleurs de plusieurs interventions du gouvernement qui ont un objectif X et qui finissent par générer un résultat contraire.
On a beaucoup critiqué, entre autres, la Caisse de dépôt, c'est un bon exemple. Là, on a perdu 40 milliards de rendement, puis on a vu que des grands patrons, bien qu'il n'y ait pas eu les résultats escomptés, ont eu des bonis. C'est ce qui a fait le plus la manchette, je pense. Il y en a eu dans le monde de l'automobile également, là, mais puis dans les grands scandales financiers aussi, des gens qui sont sortis avec des bonis alors qu'ils avaient participé de près ou de loin à la fermeture ou la baisse de la compagnie. Est-ce que c'est des exemples qui sont des exceptions, Michel?
Écoutez, on peut dire oui, mais aussi, ce qui pourrait être honnête, c'est que parfois, c'est assez compliqué. Parce que, d'abord, un boni va être versé à une année X, mais peut viser, des fois, jusqu'à 15 à 18 mois précédents. Donc, des fois, c'est dur de faire la connexion dans le temps entre le versement du montant et ce qui est en train d'arriver à ce même moment-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que, dans certains cas, l'entreprise peut faire des pertes, mais malgré tout, à critères comparables, le président peut avoir fait une très bonne job par rapport à d'autres organisations dans le même secteur qui ont des pertes encore plus difficiles.
Ça, c'est plus dur à comprendre pour nous, là, mais c'est des choses qui pourraient se vérifier et se comparer.
Oui. Évidemment, dans le cas spécifique de la Caisse de dépôt et de placement, moi, j'ai toujours pensé que le vrai problème, c'était pas tant la rémunération des dirigeants de la Caisse que le fait que nous, on n'a pas le choix de placer notre épargne là.
Ouais.
Moi, j'ai toujours pensé, parce que, tu sais, au fond, si vous, ou vos auditeurs, ou moi, on pense justement qu'on n'est pas content de la façon dont la caisse a été gérée, ben, si on nous avait laissé l'option de dire, OK, tu es obligé de cotiser au RRQ, mais ton fruit de ta cotisation, on te donne le choix entre 4-5...
Des fonds mutuels, ouais, des véhicules ou des fonds mutuels. Si on avait eu un choix, donc, mais on n'a aucun mot à dire, c'est ça?
On n'a aucun mot à dire, donc on est captif. Donc, à ce moment-là, ben, effectivement, là, tout devient plus politisé et plus épeurant. Mais moi, ma crainte, en bout de ligne, dans les cas de dirigeants comme la Caisse de dépôt et tout ça, c'est pas tant de savoir s'ils sont payés des gros salaires qu'effectivement, en bout de ligne, les rendements qui sont obtenus.
Dans votre étude, vous parlez des pièges de l'intervention de l'État. Est-ce que l'État, là aussi, est souvent un empêcheur?
Oui, exact. Et deux exemples assez faciles à visualiser là-dessus. Par exemple, à un certain moment, ils ont mis un cap à dire passer 1 million de salaire, le salaire de base est plus déductible d'impôt. Bon, pour la compagnie. Okay. Parfait. Et donc, l'idée, c'était de dire, ben, on va limiter les salaires. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils ont augmenté la rémunération à ce moment-là variable par action, ce qui, en fait, a fait augmenter les salaires. Après, ils sont intervenus en disant, on va forcer, parce qu'avant, les gens pouvaient donner, la compagnie pouvait donner le salaire total, mettons, de ses 4 ou 5 principaux dirigeants, mais dans un bundle, là, ensemble.
Okay.
Mais là, à un certain moment, ils sont intervenus en disant, non, vous allez nous ventiler ça, puis vous allez finalement nous dire chaque personne combien elle gagne. Mais en faisant ça, en fait, ils n'ont pas diminué les salaires, ils ont provoqué encore plus d'augmentation de salaire, parce que là, chaque président pouvait savoir exactement ce que son compétiteur gagnait et pouvait mettre de la pression sur son conseil d'administration en disant, finalement, je suis moins payé. Donc, à chaque fois qu'ils ont voulu essayer de patauger là-dedans, ça a généré exactement le contraire de l'objectif recherché.
Il y a beaucoup d'entreprises privées qui disent libéralisez, laissez-nous faire nos affaires, tassez-vous de là le gouvernement, mais sincèrement, quand tu regardes le big picture, Michel, est-ce que tu penses que beaucoup d'entreprises seraient très heureuses de ne plus avoir droit à autant de subventions pour les travailleurs, pour les emplois, pour la recherche? Tu sais, il y en a en tabarouette de la subvention au pied carré, là.
C'est particulièrement vrai au Québec, absolument.
Ben oui, c'est ça. Alors moi, ce que je dis, c'est que si on veut pas le gouvernement qui va limiter les salaires des grands dirigeants, faudra aussi dire au gouvernement, tassez-vous, arrêtez de nous aider, on va s'organiser tout seul. Je suis pas sûr que je sois prêt à faire ça, moi. Toi, ta perception?
Ben absolument. Et là, c'est là où on a mis, nous, le caveat de dire, ouais, ben, quand le gouvernement devient un investisseur dans une compagnie, exemple GM, ben là, le gouvernement, en tant qu'investisseur, et donc représentant des contribuables qui, eux autres, deviennent un investisseur forcé de ces compagnies-là, ben effectivement, ils ont leur mot à dire sur la rémunération. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais au fond, on revient au problème de base, qui est que le gouvernement ne devrait pas investir dans ces compagnies-là. Et là, souvent, c'est toujours, parce que c'est toujours la même affaire avec l'intervention du gouvernement. Il y a comme un patchwork qui fait que il y a une intervention qui aurait pas dû être faite. Un coup qu'elle est faite, ben là, ils se disent, OK, pour régler le problème qu'on a provoqué, on va en faire un autre.
Ah ouais.
Puis après ça, on va en faire un autre. Et finalement, ça n'arrête plus.
On les enlève pas, on en rajoute.
Exact. Et donc, en bout de ligne, toutes ces réglementations-là, ça prend quelqu'un aussi pour les contrôler, pour les administrer. Et pendant que, puis ça, là, je déborde un petit peu de la publication qu'on vient de faire, mais quand on a, mettons, des commissions des valeurs mobilières qui sont supposées, entre guillemets, ou de l'autorité des marchés financiers, qui sont supposées être, mettons, notre police de la bourse, ben si on leur donne 36 000 règles techniques à administrer, le temps qu'ils mettent des énergies à administrer ça, ben ils mettent pas des énergies à enquêter les bandits, les fraudeurs au sens strict du terme. Alors que si on leur met un mandat clair avec seulement un certain nombre de règles limitées à appliquer, ben ils vont avoir plus de temps et plus d'énergie à faire les bonnes affaires.
Et dans cette lignée-là, il faut voir une fois dans sa vie les règles addendum et addition de la loi de l'impôt au Québec.
Absolument.
Ça, c'est impressionnant. Pour les gens qui n'ont jamais vu ça, là, l'annuaire de Montréal plus de Québec plus de Montréal plus de Québec, vous n'avez pas assez haut encore.
Absolument. Et quand on a ajouté tout ce que tu viens d'énumérer, on a également aussi les règles d'interprétation qui sont un autre volume assez hallucinant. Et c'est la même chose au niveau des valeurs mobilières. Donc, en bout de ligne, moi, je pense que la question en bout de ligne, c'est que si on veut permettre aux gens d'avoir finalement des entreprises qui sont efficaces puis qui génèrent les rendements dont les gens ont besoin, entre autres au niveau de leur placement, ben il faut permettre l'innovation, puis il faut permettre à différentes entreprises d'avoir différents modèles et façons de faire. Et en bout de ligne, en ayant plusieurs différentes façons de faire, ben on va finir par découvrir quelle est la bonne plutôt que de faire ça uniforme mur à mur.
Et est-ce que, en terminant, je te demanderais, est-ce que s'enligner, est-ce que ceux qui font des comparaisons salaire privé public là dans les négociations, est-ce que ça c'est valable ou on oublie toujours les avantages, les grands avantages que le public a comme condition de travail et non pas juste salarial?
Absolument, et on va d'ailleurs avoir dans les semaines qui viennent une, si c'est pas deux études sur ces sujets-là, donc à iedm.org, et qui vont entre autres parler de la valeur des régimes de retraite des fonctionnaires versus le secteur privé.
C'est là que le bas blesse. Hein.
C'est là où il y a vraiment une différence absolument gigantesque, même si on compare les travailleurs du secteur privé qui sont les plus avantagés versus les fonctionnaires, même à ce moment-là, les fonctionnaires à salaire égal ont un régime qui est bien meilleur. Alors ça, c'est des...
On va surveiller ça sur votre site.
On va sortir
bientôt.
D'ici 3 à 6 semaines.
Merci, Michel.
Merci.
Bonne soirée. Michel Kelly-Gagnon est PDG de l'Institut économique de Montréal. On parle de la rémunération des cadres. Vous en saurez plus sur iedm.org et à venir ses études sur la comparaison et des salaires et des avantages sociaux entre le privé et le public. Ça risque de faire jaser pas mal.